Voilà, on continue les feux de l'amour, oui, la bonne série de l'été. Hein. On ravive notre amour pour le Seigneur. Même si on avance dans le cap 25, j'ai l'impression quand même que ce sixième chapitre, c'est comme une parenthèse, hein, qui nous rappelle que la vie avec Dieu, c'est pas d'abord une question technique, de compétence, même si c'est utile, que c'est d'abord une question de relation, d'amour avec Dieu. Et peut-être parfois on risque de prêter attention sur beaucoup de choses au niveau de l'organisation, de la sonorisation, en oubliant que allez, c'est pas grave, hein, Thierry, c'est pas grave, hein. Tu resteras cet après-midi ici, hein. Mais allez, tant que ton cœur boue pour le Seigneur, tant que notre cœur boue pour le Seigneur, alors il n'y a pas de souci à se faire pour l'Église. À Éphèse, ça ronronnait bien. Il y a plein de choses qui se faisaient. Et pourtant, Jésus dit, waouh. Si vous restez comme ça, je retire mon chandelier. Je veux une passion. Hervé, je veux une passion. Pour chacun d'entre nous. Donc, on continue ça ensemble. Ouais. Laissons le Seigneur peut-être nous remuer. On peut exiger plus. Il est digne que notre amour soit plus intense. Comme dans le mariage, je dois accepter, et l'autre aussi doit accepter, dire, allez, aime-moi plus, mieux. C'est le défi de nos vies, aimer le Seigneur. Alors, on va lire deux textes ensemble. Je vous dirai après à quoi ils vont servir pour raviver notre amour. On veut se placer sous l'autorité de la parole. Luc 10. Un épisode qui, il y a quelques années, m'avait fortement interpellé. Je voudrais le relire avec vous et puis l'inclure dans notre réflexion de ce matin. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur !» Donc, elle interrompt le message. Le premier qui essaye. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Et Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera jamais. Elle ne lui sera pas enlevée. Et puis, dans la deuxième épître aux Corinthiens, juste un verset. 3:18, 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui s'envoilent sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Jusque-là, la lecture pour aujourd'hui. Un livre qu'on a lu il y a des années qui, j'espère, vous a passionné, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il y a un bel épisode que je voudrais utiliser pour entamer cette troisième étape dans notre potentiel passionnel. Le renard qui vient trouver le petit prince. Et il lui demande de l'apprivoiser. Le renard lui dit... Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Après un bref dialogue, le renard poursuit « Tu sais, ma vie est monotone. Je chasse les poules et les hommes me chassent. Moi, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Et je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres me font rentrer sous la terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. » Le petit prince se mit à apprivoiser le renard en observant les rites convenables. Et lorsque l'heure du départ arriva, le petit prince s'approcha et le renard lui fit le cadeau d'un triple secret. Selon le premier secret, il dira ceci: « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Alors, sur ce secret, on y reviendra au mois d'août. Je crois que c'est le secret de la passion pour Dieu, la notion de l'invisible. Mais on verra ça au mois d'août. Au mois d'août, j'aimerais voir avec vous une méthode toute simple, biblique et historique, pour enflammer notre cœur pour Dieu. On a besoin de mettre des choses en place pour garder un feu pour Dieu. Mais ça sera pour le mois d'août. Aujourd'hui, ce que je voudrais voir dans cette troisième étape, c'est... Je voudrais m'attaquer à toutes nos résistances, à l'amour de Dieu et à l'amour pour Dieu. Il y a tellement de choses en nous qui résistent. Plus le ministère pastoral se déroule dans ma vie, plus je me rends compte que combien le peuple de Dieu a de la peine à s'approprier et à offrir un amour profond à Dieu. Il y a tellement de résistances. Et je crois que pour développer une véritable passion exponentielle dans nos vies, on a besoin d'être apprivoisé. Et tout au long de cette semaine, ce verbe faisait écho en moi. On a besoin d'être dompté. Parfois, on est un peu comme des animaux effarouchés qui restent dans leur coin. Je sais pas si vous avez l'application Snapchat. Les enfants ont mis ça sur nos téléphones. Et donc, ils peuvent réenvoyer. Il y a un an, j'avais fait une photo ou quelque chose. Il y a un an, jour pour jour. Et cette semaine, je pense que c'était Pauline qui envoyait. Il y a 4 ans, jour pour jour. Il y avait la petite Nala, hein, qui est devenue un peu plus grande. Elle était toute petite, on ne souvenait plus d'elle comme ça. Il a fallu l'apprivoiser, il a fallu la dompter pour que elle sache où aller faire ses besoins, pour se dire que voilà, ça on ne mange pas à l'intérieur, ça on ne ronge pas. Il a fallu l'apprivoiser. Et je crois que parfois, en tant que chrétien, on a besoin aussi d'être un peu dompté, apprivoisé dans notre approche de Dieu. Nous devons, je crois vraiment, inviter Dieu à nous dompter, pour que nous apprenions la liberté d'aimer, la liberté d'obéir au Christ, la liberté de trouver dans notre identité, que notre identité repose sur le plaisir d'être avec Dieu, le plaisir de servir Dieu. On a besoin. Alors, j'aimerais m'attaquer à 4 résistances, on ne pourra peut-être pas forcément les voir toutes les 4, hein. Je veux aller pas trop vite, je crois que il faut qu'on puisse dompter tout d'abord nos appréhensions. Il y a quelques peurs, je vous en citer quelques-unes. Après, on va s'attaquer à un gros morceau. Et je crois qu'on doit dompter aussi notre activisme. On devra dompter aussi un peu nos attachements. Et enfin, notre raison. On va voir si on sait aborder ça ensemble ce matin. Tout d'abord, peut-être quelques appréhensions. Hein, quelques peurs qui souvent nous bloquent. Je pense que parfois, on ne vient pas d'un milieu, pour ceux qui connaissent l'Église depuis longtemps, où l'adoration, la passion était quelque chose de très très important. Et donc, je voudrais m'attaquer à peut-être des peurs qui sont en nous, qui nous disent quelque part, oui, on peut parler de l'adoration, on peut parler de la passion, mais il y a tellement de choses beaucoup plus importantes. Quelque part, on le dit comme ça, même si on ne le verbalise pas ainsi, il y a tellement d'autres choses à poser dans la vie chrétienne. Ce serait dangereux de laisser un nouveau chrétien dans la contemplation, dans l'adoration, de Corinthiens 3, 18, de tout ce qu'ils contemplons. Il y a comme dans les milieux évangéliques une peur de laisser le peuple adorer, de devenir vraiment des adorateurs. Alors je voudrais répondre de 3 manières différentes dans ce premier point. Premièrement, je voudrais vraiment nous dire que la spiritualité adorante, contemplative, n'est pas le seul point de départ. Oui, ok, il y a d'autres choses, c'est vrai qu'il faut poser dans nos vies en même temps que notre amour pour Dieu. C'est vrai que les bébés spirituels ont besoin de s'ancrer dans la connaissance de l'Écriture. Hein, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous avez besoin des premiers oracles, des éléments... Le premier point élémentaire, hein, au chapitre 5, il fait même ce reproche, vous devriez être des maîtres, mais vous avez besoin qu'on pose de nouveau les premiers éléments. Oui, c'est vrai. Il y a l'adoration, puis il y a beaucoup d'autres choses à poser, très certainement. Les disciplines de l'étude exhaustive de la parole, l'enracinement dans une saine théologie, tout ça, ce sont des préalables vraiment indispensables, à côté de l'adoration. C'est pas ou bien, c'est et. J'ai besoin d'un bon enracinement dans l'écriture et de développer un amour fort pour Dieu. Deuxièmement, je voudrais nous dire que la méditation, la contemplation, l'adoration doivent toujours être rattachées à la vérité de la parole. La contemplation dont on parle, c'est pas comme une technique du nouvel âge où on cherche une modification de l'état de la conscience, on cherche à faire le vide de soi. Non, ce genre de mysticisme peut être vraiment dangereux. Non, c'est pas ça que l'on cherche. On cherche une vraie adoration qui nécessite d'être ancrée dans une sainte doctrine. On a besoin qu'en même temps, on ait une haute notion de l'écriture. On a besoin d'aborder l'écriture avec un profond sérieux, en voulant la méditer, la connaître et la vivre. Faudrait pas qu'on considère la contemplation comme une fin en soi. Non, ça doit s'accorder avec aussi une soif d'obéissance à la parole et de fidélité dans la vie de tous les jours. Et puis troisièmement, peut-être certains se disent, ouais, mais moi l'adoration, la contemplation, l'amour, passion, c'est pas trop ma personnalité. Je crois que c'est pas une question de tempérament, de personnalité. Quel que soit notre attrait naturel pour ces choses, si nous voulons vraiment développer notre passion pour le Seigneur, l'adoration est bénéfique pour chacun d'entre nous. On est fait pour aimer Dieu. Ce n'est pas une question de tempérament. Hein. On devrait dire que si on veut vraiment décrire la relation dévorante avec Dieu, c'est pour nous une sainte simplicité. C'est ça la vie chrétienne, une sainte simplicité, une résolution inébranlable du cœur à poursuivre un bien immuable. C'est ça qu'on cherche, une résolution du cœur qui cherche à atteindre Dieu. Les disciples de Jésus-Christ font de l'amour pour Dieu l'objet suprême de leur vie. Et pour ça, je parlais de la bulle ce matin. C'est ça qui nous réunit. Pour les disciples de Jésus-Christ, l'objectif de la vie, c'est d'abord d'aimer Dieu. On déplace le point focal qui fait que si souvent notre cœur regarde à nous pour le fixer vers le Seigneur. N'ayons pas peur. Laissons le Seigneur dompter un peu nos peurs. Quand il nous dit « aime-moi, adore-moi », ça c'est l'objectif de notre vie. Premier point, qui était un peu comme une introduction. Deuxième point, je crois que là on s'attaque à quelque chose de beaucoup plus important encore dans nos vies. Je crois qu'il faut qu'on puisse se laisser apprivoiser, surtout dans notre activisme. Dans notre activisme. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, qui sont vraiment victimes de l'illusion de croire que l'activité, les performances, l'agitation, ça nous gagne la faveur de Dieu. Comme si qu'on est toujours en train de faire quelque chose, Dieu prend plaisir à cela. Et on vit dans une société qui valorise la suractivité, pas toujours le surtravail, mais la suractivité, la surconnexion, toujours en train de faire quelque chose. Comme si le temps devenait un tyran dans notre existence. Et on s'est laissé séduire par l'idée que plus est synonyme de mieux. Plus d'activités, plus de réunions, plus de programmes, plus, toujours plus. Quand on lit cet épisode, que je ne vais pas disséquer maintenant, pour le disciple de Jésus, il y a une seule chose nécessaire. C'est un épisode tellement fort. C'est pas un petit épisode récréatif avant des étapes plus importantes dans le ministère de Jésus. Il enseigne des choses très très fortes pour nous disciples. Il dit, il y a une seule chose nécessaire, indispensable, prioritaire, être au pied de Jésus. Je voudrais tellement, quelque part, m'arrêter et avec nous, Laissez ces mots peser dans nos cœurs, dans nos vies, nous dit Jésus, il y a une seule chose nécessaire. Rappelez-vous les étudiants, ou que c'est dans d'autres situations, quand quelqu'un dit, écoute, ton médecin, Sarah te dit, si tu ne fais pas ça, Sarah, dans 3 mois, tu vas mourir, il y a une seule chose indispensable. Je pense qu'elle va vraiment écouter. Hein. Je me souviens de quelqu'un dans l'église qui arrête, ça ne veut pas arrêter de fumer. Puis il a eu un petit problème cardiaque. Puis le médecin lui a dit, si vous n'arrêtez pas de fumer, dans 6 mois, c'est fini. Ben, il a arrêté. Jésus est en train de nous dire, dans ta vie, il y a une seule chose indispensable, prioritaire. C'est d'être à mes pieds, de m'entendre, de vivre un moment d'intimité. Jésus n'est même pas en train d'essayer de mettre de l'ordre dans nos priorités. Et c'est ça que je trouve ce texte, il est quelque part un peu scandaleux. Jésus dit, je viens bouleverser tes priorités. Je viens bouleverser tes priorités. Un peu comme Copernic, qui au XVIe siècle a dit, wow, notre vision de l'astronomie est tout à fait fausse. C'est pas que tout l'univers tourne autour de la Terre. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Révolution copernicienne. Jésus est en train de dire, je veux renverser vos priorités. Je veux réagencer votre emploi du temps. Je veux que tu rentres dans un nouvel horaire. Et en relisant ces notes, je me disais, je voudrais tellement que l'Église comprenne que nous sommes des gens à part. On est, pas qu'on est meilleur, le Christ nous rend meilleur, il vient vivre en nous, mais il fait de nous des gens qui ont une vie tout à fait différente, impactée par le royaume, c'est les valeurs, les mœurs d'en haut. Regardez, on nous oblige à changer nos habitudes. On porte un masque et on le fait. Jésus est en train de nous dire, moi je vais vous obliger, je vais changer votre style de vie. Il y a des choses qui vont devenir nécessaires, indispensables. Excusez-moi, je me fous de ton emploi du temps avant de tes habitudes. Je suis Dieu. Et j'ai des principes pour toi. Et vous voyez, dans cette petite maison où il y avait quand même du monde, Jésus bouleverse la vie des disciples. Je veux que tu rentres dans un nouveau programme de vie, une nouvelle méthode de vie, une nouvelle dynamique de vie, où ce qu'il y a de meilleur va avoir la meilleure place. Ce qu'il y a de meilleur, goûter à Jésus, va avoir la meilleure place. On est vraiment au cœur de la passion. Hein. Quand Jésus dit, elle a choisi la bonne part, c'est la traduction d'un hébraïsme qui dit, en fait, elle a choisi ce qui demeure. Elle a choisi ce qui est meilleur, Marie. C'est donc pas une question de tempérament. Madame 2000 volts ou Madame Minimir. Minimir, les jeunes ne connaissent pas. Hein. Il fait le maximum. C'est pas une question de tempérament. Quand Jésus est là, quand Jésus parle, tempérament ou pas tempérament, on s'assied et on écoute. Quand l'ambulance passe, intéressant, on va, hop, les voitures se mettent à gauche et à droite. Alors j'admets que ce que Jésus est en train de dire, c'est une parole tout à fait scandaleuse. Économiquement, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau physique. Mais Jésus nous a habitués quand même à dire des choses quand même souvent. C'est costaud quoi. Dernièrement, mon ami le sceptique disait beaucoup de choses que Jésus a dites qu'on vit pas. C'est vrai qu'on y tend. Il a dit des choses tellement fortes, coupe ta main. Et nous on lit ça, hop. Il dit des choses tellement fortes. Je crois que cet épisode-là nous dit des choses très fortes quant à notre style de vie. À vue humaine, c'est vrai que cette leçon de passion, elle est terrible. Elle nous dérange. Certains ont peut-être déjà un peu fermé la porte en disant, bon, c'est juste un mauvais moment à passer, et puis après on va retourner. En fait, l'invitation de Jésus, c'est une invitation à vivre au milieu de ce monde sans se laisser prendre dans les filets de toutes les activités, de tous les besoins, de tous les appels, de toutes les notifications. Et là, je parle aux jeunes et aussi aux moins jeunes, où sans arrêt, ça bibe dans tous les sens, d'ailleurs même au culte. Ça fait des années, on dit, éteignez vos GSM. Jésus nous invite à vivre autrement dans ce monde, sans se laisser prendre dans ces filets. La seule chose nécessaire vient couper toutes nos dépendances, qu'on dit chronophages, qui mangent notre temps. Il y a des choses qui, excusez-moi, qui bouffent le temps. Je crois vraiment que pour nous chrétiens, couple chrétien, où il y a pour nous une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de respirer, une nouvelle façon de vivre ensemble, une nouvelle façon de connaître la vie. Je crois qu'il y a pour le chrétien, il y a une façon de vivre. Quelque part, notre style de vie est différent de celui du monde. Parce que c'est Jésus qui dit, dans ta vie, il y a une seule chose nécessaire, Maria. Une seule chose, Frankie. Une seule chose nécessaire. C'est très, même très fort, ça. Il y a quelques années, j'avais essayé de l'illustrer un peu. Plein blocus. Et vous entendez votre enfant en train de passer l'aspirateur dans sa chambre. Et trouvez, mais il y a une seule chose nécessaire. Arrête. Étudie. C'est ça que Jésus est en train. Il y a une seule chose nécessaire dans notre vie. Et je crois que si souvent on prend ça à la légère, c'est ce contact avec le Seigneur. Le contact, la passion. Qui peut exiger ça? Il n'y a personne qui a une autorité pastorale. Seul Jésus peut dire, moi je veux ton cœur. Moi je veux ton cœur, moi je veux du temps avec toi. Je sais que ça va à l'encontre de la culture ambiante. Et il nous faut apprendre la pratique du silence, du calme, de l'écoute, de la réception. Si tu veux vraiment cultiver l'intimité avec Dieu, comme il faut du temps et beaucoup d'attention pour tisser une bonne relation avec quelqu'un et l'entretenir, je dois apprendre que le Seigneur est beaucoup plus sensible à ma présence qu'à mes performances. Il le fait mieux que moi, mais Dieu veut ta présence. Il y a une seule chose nécessaire. Si c'est vrai que on aime Dieu en le connaissant, c'est tout aussi vrai aussi qu'on le connaît en l'aimant. Paul dit, celui qui aime Dieu est connu. On connaît Dieu par l'amour. Notre passion cherche à saisir Dieu par l'amour et par la foi, de sorte que ce que nous croyons, notre théologie ne vient plus spéculative, mais vécue. On vit des choses avec Dieu. Alors, je voudrais encore nous dire ceci. Je ne crois pas qu'on va avancer beaucoup ce matin en nous culpabilisant. Je sais que peut-être certains reçoivent ça déjà comme une chape de plomb. On dit waouh, waouh. Je veux pas nous culpabiliser, je veux nous responsabiliser. Ça, c'est vraiment autre chose. Parce que répondre à cette invitation de vivre avec Jésus, ça ne doit pas nous conduire au désespoir en disant oh purée, j'ai tellement vécu d'échecs. J'ai essayé, puis je me suis laissé manger par mille et une choses. Je ne crois pas que le Seigneur désire nous écraser, pas du tout. Je voudrais d'abord qu'on découvre que cet appel à la seule chose nécessaire nous permet de découvrir que tout d'abord qu'on n'est que des hommes. Et Dieu est Dieu. Et la première chose qui va découler de cette étreinte, parce qu'il nous invite non pas pour être de la main d'œuvre, mais parce qu'il veut notre cœur, il aimait Marie, il aimait Marthe, il les voulait toutes les deux, il avait des choses à leur dire. Il est dit que cette famille, il les aimait. Il aimait Lazare, il aimait Marthe et Marie. Et ces textes, ils sont écrits pour nous dire, hé, c'est toi que j'aime. Tu sais, Josette, que j'aime être avec toi. J'aime ces moments. La première chose qu'on doit découvrir dans cette étreinte, c'est son pardon. Ne nous laissons pas écraser par les échecs passés. Il vient et il nous pardonne. Il met pas Marthe dehors. Viens, Marthe. Il nous pardonne, mais en même temps, il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser croupir dans notre petite vie stressante et souvent médiocre. Nous avons en face de nous un Dieu qui exige pour ses enfants, je vais dire un gros mot, une discipline. On n'aime pas ça, pas le dimanche matin à 9h. C'est ça qu'il veut pour Marthe et Marie, pour chacun d'entre nous, pour que la seule chose nécessaire rentre dans nos vies Dieu est un Dieu de pardon, mais aussi un Dieu terriblement exigeant. Là, parce que l'amour est exigeant. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui vous aime, qui dit, si on se voit pas ce mois-ci, pas de souci, hein. L'amour de Dieu est un amour exigeant. Il veut une discipline spirituelle. Et je crois que sans la discipline, la vie spirituelle, le face-à-face quotidien avec le Seigneur est vraiment impossible. Et dans une société comme la nôtre, hyper connectée, des images partout, tu peux avoir des activités sans arrêt. Sans la discipline spirituelle, l'intimité avec le Seigneur est vraiment impossible. Et je crois que trop de chrétiens, trop d'églises se sont perdus en chemin. On n'a plus mis l'accent sur la relation. La discipline spirituelle veut dire qu'il y a vraiment quelque chose de précis et de concret à mettre en place pour créer un contexte où je peux vivre une relation ininterrompue avec le Seigneur. Ça veut dire que la discipline, il y a comme une enceinte que je dois créer autour de ma vie pour rencontrer le Seigneur. J'aime cette expression dans plusieurs traductions. La vieille traduction, quand Moïse doit construire la tente, la vieille traduction dit la tente de l'assignation. Hein, comme au tribunal, vous êtes assigné. Et il y a de belles traductions qui mettent, et littéralement c'est juste, la tente, vous savez, du rendez-vous. Moïse était appelé à la tente du rendez-vous. Nous sommes appelés à un rendez-vous. C'est ça la seule chose nécessaire, un rendez-vous. Vous avez vécu aussi ça, des moments où vous aviez rendez-vous, vous auriez pu parcourir des kilomètres et des kilomètres, moins 20, plus 50, pour un rendez-vous. Dieu dit, je dresse une tente, laisse-moi te dompter, arrête de courir dans tous les sens. Il y a une seule chose nécessaire. Nos horaires et les lieux que nous habitons ne peuvent pas être à ce point encombrés que nous ne puissions pas le recevoir. Et je crois qu'il nous faut, pour ça que je m'arrête un peu plus sur ce point-là, parce que on doit tellement être dompté. Je crois qu'il faut travailler dur pour se décider, voilà le moment que je vais mettre à part tous les jours, Seigneur. Que ça me plaise ou pas. Et parfois on est devenu tellement romantique, oh, tu me dis, moi je le sens pas aujourd'hui. Franchement, les jours pairs, ça marche pas pour moi. Même si nous voulons consacrer à Dieu toute notre vie, on n'y arrivera pas si on ne parvient pas à consacrer un moment, une bonne plage horaire entre lui et moi, même si le monde s'écroulait. Et ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de sens du risque, parce qu'il y a toujours bien des choses beaucoup plus urgentes. On est dans un monde qui... Tout est tellement urgent. Il n'y a pas que Espoir et Rima qui travaillent aux urgences. Je pense qu'on doit être habitué à vivre dans l'urgence. Il y a toujours des choses plus importantes. Et ça demande de la violence. Je dis, ce sont les violents qui rentreront. Ce sont les violents qui goûteront à ma présence. Ceux qui parmi nous ne réservent pas un endroit et un moment précis chaque jour pour ne faire rien d'autre que d'être avec Jésus vont vraiment peiner pour grandir. J'ai presque envie de dire, vous allez mettre un frein sérieux à votre croissance. Aujourd'hui, je dirais que la seule chose nécessaire, c'est le critère de la vie chrétienne. Vous entendez ça? Et je le crois vraiment. La seule chose nécessaire, ça c'est le critère de la vie chrétienne. C'est le critère de la bonne santé spirituelle. La prière, la passion pour Dieu exige que nous nous tenions en sa présence, les mains ouvertes, nues, vulnérables, pour dire haut et clair, à moi-même, à Dieu et aux autres, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, sinon je vais lui offrir mon caractère de cochon. Sinon je ne vais pas devenir lumière du monde. Je lisais dans une autre traduction, Jésus dit, vous êtes le sel. Si le sel, notre traduction devient fade, l'autre traduction dit, si le sel devient fou, mais on devient fou sans Dieu. Fou dans un monde. On développe tellement la peur. On doit se présenter devant Dieu. Et c'est difficile dans un contexte où on dit toujours, écoute, fais de ton mieux. Et pour le reste, on verra ce que Dieu va. Fais de ton mieux. Mais notre mieux, c'est quoi? C'est Dieu. Notre Dieu, notre mieux, c'est Dieu. La seule chose nécessaire, c'est le temps d'exposition à Dieu. Tu reviens de vacances, tu voulais être un peu plus brun, Tu reviens tout blanc comme un cachet d'aspirine. Ah ouais, mais je suis resté que 5 minutes par jour au soleil. Ben oui, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Le disciple, ce n'est pas celui qui utilise Dieu quand il a tout essayé. Non, c'est celui qui dit, ma force, c'est toi. Mon courage, ma paix, c'est toi. La prière, cette relation adorante, doit être notre premier souci. Ça doit être notre premier souci. Je sais que on a tous beaucoup de soucis, de préoccupations. Et quand on les déverse comme ça sur nous, c'est difficile de faire le tri. Et pourtant, notre première responsabilité, notre premier souci, c'est cette communion avec lui, cette passion avec lui. Alors, je termine ce point-là. C'était plus long, après je vais juste énumérer les autres. Comment, concrètement, cultiver cette passion tout en étant plongé dans nos activités professionnelles, ok? Tout en étant... Ils vont passer à table chez Marthe et Marie. Et texte grec, le terme grec dit même que Jésus pourrait même loger avec tous ses copains. Donc, il y a du boulot, quoi. Comment cultiver la seule chose nécessaire tout en étant plongé dans nos activités professionnelles? Ma réponse sera toute simple. Je crois que la seule solution, c'est un horaire de prière, de passion, que tu n'enfreindras jamais. Fixe-toi un temps raisonnable, et une fois que tu l'as adopté, respecte-le à tout prix, qu'il devienne ton obligation la plus importante. Fixe-toi un moment raisonnable, que tout le monde sache dans ta maison et autour de toi, qu'à ce moment-là, tu n'es plus disponible. Seul, ensemble, un moment fixe. La rencontre avec Jésus doit devenir aussi importante que manger et dormir, travailler, plus importante encore. Dompter notre activisme. Dompter notre activisme. Je vais juste énumérer les deux autres parce que je me rends compte que peut-être si c'est trop riche, on va laisser passer l'interpellation. Jésus est en train de nous dire, je suis la priorité dans ta vie. C'est bien de venir le dimanche. Super. C'est bien de venir le mardi. Super. Tout ça encourage, entraîne. Mais je veux aussi un face-à-face, une intimité avec toi. Je cherche ton cœur. Il y a une seule chose nécessaire. Le connaître, l'aimer. C'est peut-être notre souci. J'irai peut-être plus loin mardi, mais je voudrais aussi qu'on fasse attention à dompter nos attachements. Peut-être je l'introduis simplement. Pour qu'on se rende compte que... Regardez les premiers chapitres de la Bible, on voit que tout est en ordre. Nos parents sont là dans le jardin, dans un monde de plaisir et de joie, d'intimité avec Dieu. Dieu est au cœur de leur sanctuaire, sanctuaire de leur cœur. Dieu est là. Et toutes les choses que Dieu a créées sont à l'extérieur et ils peuvent en jouir. Tout est en ordre. Une fois qu'ils quittent, que le péché rentre, qu'on dit non à Dieu, Dieu n'est plus dans le sanctuaire du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on voit? Ce sont les choses qui vont prendre la place de Dieu dans le cœur. Et Dieu en est exclu. Ce qui veut dire que les choses vont prendre une telle place, vont provoquer un tel attachement qu'on va vivre un déséquilibre. Il y aura le pouvoir des choses, pouvoir d'attraction, mes désirs, mes appétits. Quand je sors du jardin d'Éden, sont déréglés, le péché a tout compliqué. Et quand le Christ vient, il vient remettre de l'ordre aussi dans le sanctuaire. Et regardez ce qui se passe dans le temple. Jésus doit nettoyer le temple pour que Dieu retrouve sa place. Mais nous, on doit faire super attention à nos attachements. À quoi est-ce que je suis le plus attaché? Parce que les choses extérieures ont pris du pouvoir. Il y a un ennemi en moi qui est la tapis et qui peut détruire ma vie chrétienne. Moi, mes besoins, ma vie, moi, ce que je désire. Parfois, on fait super attention à ces comportements et on oublie que nos désirs sont aussi touchés par le péché. C'est pourquoi vous allez voir dans l'Écriture qu'il y a toujours, si tu veux développer un attachement profond à Dieu, il va y avoir place à un détachement. Le jeune homme riche, c'est quelqu'un qui, spirituellement, fonctionnait très bien. Mais son problème, c'est qu'il est attaché. Allez, je termine avec cette belle histoire. Souvent, il y a des principes dans le Nouveau Testament qui sont illustrés dans l'Ancien Testament. Abraham et Isaac. On connaît cette histoire. Qu'est-ce qu'ils ont attendu leur fils, quoi? Faux. Qu'est-ce qu'ils ont attendu? Quand il est arrivé? Quel soulagement, mais quel amour pour ce bébé! Quelle place dans leur cœur! Il incarnait toutes les promesses de Dieu, l'espoir pour les nations, leur fils. Et on peut comprendre qu'il y a eu un attachement incroyable entre eux et Isaac. Et je crois que l'épisode où Dieu demande à Abraham d'offrir son fils, c'est justement parce qu'il y a un attachement qui n'était pas sain. Isaac remplissait le cœur de ses parents, le cœur d'Abraham. Or, c'était une place que Dieu devait avoir. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas qu'Isaac meure. Mais il voulait que le cœur d'Abraham soit libre, détaché, qu'il ait son fils, qu'il ait beaucoup de biens, mais pas dans le cœur. C'est pourquoi Abraham, donne-moi ton fils. Costaud, hein? C'est raconté succinctement. Qu'est-ce qu'il a dû se passer la nuit? Probablement, il n'a pas dit à sa femme. Je vais faire un hec avec mon fils. Madame, quand il vous dit ça, faites attention. Hein. Comment il a dû dormir? Probablement, il n'a pas dû dormir. Le chemin vers le mont Morija. Le petit dit, papa, c'est bien, on va offrir quelque chose à Dieu. T'as oublié quelque chose, hein? Et il l'a fait. Il l'a fait. Il a accepté de se détacher. Je crois que quand ils reviennent, il a entendu une parole de Dieu extraordinaire. Je vois ton attachement à moi. Quelque part, il ne revient plus le même. Il a toujours son fils, il aime toujours son fils, mais de la bonne manière. Et dans une société comme la nôtre, de surconsommation, on nous sollicite, mais sans arrêt, sans arrêt. C'est difficile d'être détaché, de ne pas laisser notre cœur, comme ce sont des cœurs aimants, on est tous différents, donc il y a des points d'accroche qui peuvent être différents les uns des autres. Mais nos cœurs sont à prendre, et Dieu dit non. On devra donc grandir, on devra apprendre à dompter nos attachements, parce que la vie chrétienne, elle va passer toujours par un renoncement, un détachement, pour nous attacher à quelque chose de meilleur. C'est dans les conditions même de l'appel du disciple. Tu veux me suivre? Renonce. C'est pas pour nous priver. C'est parce qu'il y a un tel bien, il y a un tel régal que Dieu dit, non. Un Paul disait, ils ont pour Dieu leur ventre. Mais la cuisine aujourd'hui, c'est devenu un dieu. Les dieux ont quitté les églises pour rentrer dans les frigos, n'importe où. Et Dieu dit non. Ok, tout est à prendre avec action de grâce. Mais tu ne vis pas pour manger. Tu ne vis pas pour ta maison. Tu ne vis pas pour ta voiture. Tu ne vis pas pour... Tu vis pour moi. Tu vis pour moi. Si on veut grandir dans notre passion, comme ce petit chien, comme cet animal, on doit accepter d'être apprivoisé dans la maison du Père. Profitons de cette période pour dire, Seigneur, montre-moi là où j'ai peur. Là, j'ai peur, vraiment. Montre-moi jusqu'où était mon activisme. Montre-moi là où j'ai accepté un style de vie. Je sais, c'est difficile de changer de style de vie. Mais devenir disciple de Jésus, c'est vraiment changer de royaume, de style de vie. Où la seule chose nécessaire va être fondamentale. Notre rapport au bien va changer. Va changer. Paul disait, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Le monde dit tout l'inverse. Non, tu as besoin de 400 paires de godasses quand même. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Nous ne comprenons pas, Seigneur, comment tu es tellement attaché à nous. Nous qui, si facilement, te tournons le dos, préférons mille et une choses à ta présence, mille et une choses à ce rendez-vous avec ta parole, ces rendez-vous avec les frères et sœurs pour te rencontrer, pour t'aimer. Seigneur, apprends-nous, aide-nous, fortifie notre volonté pour que nous acceptions ces disciplines de vie, ces changements de vie. Tu en es digne, Seigneur, tu en es digne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne la tiédeur de notre amour. Et lance-nous. Comme tu dis dans l'Écriture, prends-nous dans le désert comme cette jeune fiancée pour que l'on puisse être épris de toi, tomber encore et encore amoureux de toi. Tout en toi est beauté, Seigneur. On le chante et parfois on le découvre si peu. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes qui prennent les bonnes décisions. Fortifie-nous, Seigneur, en ton nom. Amen.